Un mois d'actu avec Bâti Actu, une émission animée par Florent Lacasse, rédacteur en chef.
Alors ce mois-ci, tout d'abord, nous allons parler des certificats d'économie d'énergie avec Marina Hoffel de Villaucourt de GOPLC. Ensuite, nous nous intéresserons à la stratégie d'un industriel Terreal. Et enfin, nous survolerons la vie de Louis Vica, l'inventeur du ciment.
Un mois d'actu avec Bâti Actu, question d'actu.
Depuis la montée en puissance des politiques visant à rénover énergétiquement le parc existant, le débat se perpétue sur les moyens de massifier les actions de rénovation et de bien informer les citoyens sur les aides existantes. Mais un dispositif existant depuis 2006 mais toujours relativement méconnu permet déjà de répondre en partie à ces problématiques. Il s'agit des certificats d'économie d'énergie, les C2E. Nous en sommes donc aujourd'hui à la quatrième période qui court de 2018 à 2020 et qui devrait mobiliser entre 8 et 10 milliards d'euros. Pour donner un point de comparaison, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc le CITE, devrait à présent se limiter à 800-900 millions d'euros par an. Donc pour parler de ce dispositif des C2E, nous accueillons Marina Hoffel de Villaucourt, porte-parole de GOPLC, société délégataire au sein du dispositif. Bonjour Marina Hoffel de Villaucourt.
Bonjour Florent.
Alors si le système des C2E est toujours relativement méconnu, c'est peut-être parce qu'il est un petit peu compliqué à comprendre. Est-ce que vous pourriez déjà dans un premier lieu nous expliquer comment il fonctionne ?
En fait, on le rend quand même assez très compliqué. Le dispositif, en deux mots, c'est très simple. C'est une obligation qui a été faite depuis 2006 aux fournisseurs d'énergie, donc EDF, Total et tous ceux qui fournissent de l'énergie, une obligation de financer des actions d'économie d'énergie. Isolez vos combles, changez vos ampoules, changez vos chaudières. C'est comme le principe du pollueur-payeur. Là, c'est fournisseur d'énergie contribue aux actions d'économie d'énergie. Et donc, du coup, plus vous vendez l'énergie, plus vous avez des obligations. EDF, c'est le premier obligé à financer des actions d'économie d'énergie. Et nous sommes, comme vous l'avez bien dit, dans la quatrième période, vous avez des objectifs très, très élevés, ce qui est très normal, car on répond à des objectifs aussi très élevés, imposés par l'Europe. D'économie d'énergie.
Et donc votre société GOPLC a organisé un colloque donc le 25 avril dernier à Paris. Il s'agissait en fait de faire un retour d'expérience au niveau européen sur les certificats d'économie d'énergie. Donc il y avait notamment le Royaume-Uni qui témoignait, l'Italie, l'Irlande, etc. Et donc quels enseignements on peut tirer de ces retours d'expérience ?
Alors en fait déjà à la base on voulait organiser cet atelier parce que l'actualité de notre marché est très très dense. Nous avons eu une directive européenne sur l'efficacité énergétique, nous avons une réglementation sur tout ce qui est contrôle des chantiers. On commençait vraiment à avoir une actualité beaucoup trop dense et on s'est dit c'est important de réunir les parties prenantes de tout le marché de la rénovation énergétique ainsi que des représentants des États membres qui utilisent également ce dispositif de certificat d'économie d'énergie. Donc, on en a tiré quelques enseignements. Je vous avoue qu'il y a un compte-rendu qui va être fait et les débats étaient tellement riches qu'on va sûrement sortir une étude à la fin du mois avec nos partenaires pour vraiment donner des pistes de réflexion. Ça tombe bien, on tombe dans les élections européennes. Comme ça, on donnera des idées.
Voilà, c'est un bon timing.
Voilà. Et donc, quels enseignements ? Déjà, on se sent rassuré. Parce que tous les États qui utilisent le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui a quand même mauvaise presse, ont un petit peu les mêmes éléments. Par exemple, vous avez des manquements, des petites fraudes qui se retrouvent un peu dans tous les États membres qui l'utilisent. Vous avez des petits problèmes de travaux mal effectués, vous avez des économies d'énergie qui ne sont pas forcément aussi performantes que ça. Mais ce n'est pas non plus un problème gravissime, isolé pour la France. Vous avez aussi un sujet lié au marché. Par exemple, au Danemark, ils ont bien relevé le problème que si les artisans ne sont pas suffisamment formés, si vous n'avez pas assez de structures délégataires ou intermédiaires comme les nôtres, qui permettent de inciter aux obligations d'économie d'énergie, isoler vos combles, faire des offres à 1 euro pour des chaudières, avoir une sorte d'innovation, vous avez un marché qui est tendu et qui donc ne fonctionne pas. Et vous avez un dispositif qui ne finance pas assez des travaux d'économie d'énergie. Enfin, dernier enseignement, et pas les moindres, le Royaume-Uni a soulevé le sujet de la précarité. C'est très difficile de cibler les ménages précaires, d'accéder et aussi de les convaincre à passer à l'acte. Pour des sujets psychologiques, pour des problèmes financiers, pour des problèmes, comme vous l'avez dit aussi, de méconnaissance des aides qui sont à leur disposition.
L'exemple de l'Italie aussi était assez intéressant, si je ne me trompe pas. Il y avait eu énormément de fraudes, donc ils ont resserré les boulons derrière. Est-ce que Pourriez un peu préciser ce qui s'est passé là-bas.
C'est un enseignement qu'on va pouvoir tirer aussi pour la France. En Italie, ils sont un peu comme nous. Ça fait très longtemps qu'ils utilisent le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et ils ont fait face à une hausse des fraudes. Alors attention, les fraudes, c'est pas des escroqueries à millions d'euros. Hein. On parle vraiment de malfaçons, d'entreprises qui versent la moitié de la prime, etc. Et en 2016, ils ont complètement serré les vis. Et ils ont sélectionné toutes les sociétés comme les nôtres du marché. Donc, il y a eu 80% des sociétés qui ont été exclues du marché. Vous avez 80% des dossiers de primes qui ont été suspendus. Et le cours du C2E, donc le prix des certificats d'économie d'énergie, était trop élevé et était répercuté sur la facture. Il a été plafonné.
Oui, c'est le risque. Ouais.
Voilà. Aujourd'hui, le marché, comme on avait bien entendu son représentant du marché italien, le marché est arrivé à maturité. Et ça marche plutôt bien, ce qui est rassurant par rapport à notre cas français.
Justement, sur ce cas français, donc, vous avez évoqué les fraudes. Il y a eu un vrai renforcement en 2018. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce sujet? Il y a eu vraiment un écrémage, si je puis dire.
Tout à fait.
Des délégataires. Donc voilà, revenir là-dessus. Sur le pôle national aussi des C2E, les moyens ont été musclés. Et puis, bon, ça parle aussi du projet de loi énergie-climat qui contient justement certaines de ces dispositions.
Tout à fait. En fait, le marché français, en sortant de ce colloque, on se sent un peu rassuré encore une fois, parce qu'on se dit nos sujets sont un peu communs aux 15 États membres qui utilisent le dispositif. Par contre, notre marché, il est quand même arrivé à une certaine maturité. C'est-à-dire que les acteurs sont de plus en plus formés et professionnels. Il y a eu un écrémage. À partir de la quatrième période, les objectifs d'économie d'énergie imposés à la France ont été décuplés. Il y a maintenant, comme vous l'avez dit, entre 6 milliards et 9 milliards d'euros sur la table pour subventionner les travaux. Donc évidemment, il fallait resserrer les vis. Donc du coup, écrémage des sociétés habilitées comme les nôtres. On est passé de 80 à 27.
Oui, donc c'est parlant.
Voilà. L'écrémage, il se fait sur des contrôles de qualité très rigoureux, des garanties financières, sur combien de personnes on embauche au process qualité. Vous savez qu'on est quand même, nous, chez GOPLC, on est 160, il y a au moins 40 personnes qui travaillent que sur ça. Sur la qualité, le contrôle a priori et a posteriori des documents et des dossiers. Et vous avez également une vigilance sur les artisans, qui doivent être formés et contrôlés. Et là-dessus, je fais une petite parenthèse, on n'est quand même pas trop mal lotis par rapport à d'autres pays. Il y a une étude qui est sortie sur Que Choisir, qui lance un peu l'opprobre sur cette profession. C'est vrai qu'il y a des malfaçons. Mais il faut quand même relativiser parce que la majorité des artisans sont quand même très très contrôlés. Et là, vous pouvez faire le lien avec le projet de loi énergie-climat.
Oui, bah, allons-y. Effectivement, il y a un projet de loi énergie-climat donc, qui a mis un certain temps à sortir des limbes et qui pourrait mettre un peu plus de temps que prévu d'ailleurs, si j'ai cru comprendre. Donc est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler un point ce qu'il y a dans ce projet de loi et quelles avancées va-t-il permettre dans votre secteur?
Alors déjà, ce projet de loi énergie-climat, il était vraiment un petit projet par rapport à la PPE.
On l'appelait la petite loi, oui.
Tout à fait, la petite loi qui devient finalement une grosse loi, voilà. Parce qu'en fait, ça a été un peu une loi fourre-tout. En termes juridiques, on parle de véhicule législatif. Tout le monde y met sa sauce.
Cavalier, non, c'est ça?
Voilà, le cavalier, véhicule. Et donc, du coup, vous avez au moins 3 articles qui parlent des économies d'énergie.
D'accord.
Sur 8. Donc déjà, et vous avez un article 5 qui se prénomme amélioration du dispositif des certificats d'économie d'énergie.
C'est très clair.
Voilà, donc 3 choses. La première chose, c'est un signe positif pour le gouvernement. Il veut donner un signe de rassurer sur le dispositif qui se fait un peu attaquer, à juste titre parfois, à tort parfois, par les médias et par les acteurs. Donc, comme le gouvernement utilise beaucoup le dispositif des certificats d'économie d'énergie pour financer la rénovation énergétique en France, il faut donner des gages de confiance. Et donc, du coup, on resserre les vis, on augmente les sanctions et les contrôles sur les acteurs. Pas de problème à ce niveau-là. Vous avez 2 alinéas. Vous avez un alinéa qui autorise les échanges d'informations entre le ministère écologie, qui contrôle les dossiers de vos primes, et la DGFiP, donc Direction Générale des Finances Publiques. Vous avez Bercy et vous avez TRACFIN. Encore une fois, là-dessus, si vous êtes allé au colloque que nous avons organisé, on se dirait, gage de transparence, is ok, tant mieux. Plus de transparence permet donc moins d'escroquerie, donc du coup, permet que le dispositif marche bien. Le problème, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 1 imposait des sanctions un peu encore plus augmentées par rapport à celles qui existent déjà. Des sanctions par rapport aux acteurs comme les nôtres, intermédiaires, ou aux artisans qui travaillent avec nous. Là, il y a 10 000 entreprises qui travaillent avec nous. Donc, il rajoute des sanctions à celles qui existent déjà. C'est L222-2 du Code de l'énergie, si vous avez besoin de lecture, qui impose déjà, si vous avez des primes qui sont mal versées ou des malfaçons sur vos travaux, des amendes, une suspension de votre droit à recevoir des primes ou la nullité de tous vos dossiers qui donnent des primes. Je peux vous assurer que, comme on est des sociétés qui ne sont pas la même surface financière qu'EDF, c'est vite compliqué. Oui. Et les artisans en partissent aussi beaucoup. Donc il faut le rappeler. Et cet alinéa 1 du projet de loi énergie-climat renforce encore plus ces sanctions de manière un peu aléatoire donne le droit au ministère de l'écologie de faire des contrôles sur n'importe quel dossier remonté par des artisans. Et ces contrôles sont financés, sont à notre charge.
D'accord.
Cet alinéa était un peu confus, augmente la sanction, augmente la pression sur les artisans et sur nos sociétés comme les nôtres, et a été retoqué par le Conseil d'État, parce qu'il manquait de précision.
D'accord.
Donc nous, on est d'accord, encore une fois, pour plus de contrôle et plus de sanctions. Par contre, il faut que ce soit clairement, il faut que ça soit plus de transparence, et il faut aussi qu'on ait des droits de recours. Parce que notre écosystème qui pèse 9 milliards d'euros, avec les artisans, on dépend un peu, d'une certaine manière, du pouvoir exécutif et réglementaire. Et on a besoin de gages de transparence des deux côtés pour que le dispositif et le marché soient à maturité. Et à ce niveau-là, les droits de recours, on a quand même pas mal d'idées. Et, un médiateur de la rénovation énergétique, comme le propose notre confrère, ou bien un système de rescrit qui permettrait aux artisans, aux entreprises, ou même aux particuliers qui ont un doute sur les certificats d'économie énergie, de poser leurs questions à l'administration et que leur réponse, la réponse de l'administration, les sécurise et leur permette de ne pas voir leur prime supprimée.
D'accord. Voilà. Et du coup, ça pourrait être des points qui pourraient être dans la cinquième période des certificats. Vous espérez que ces points sont peut-être pris en compte.
Alors déjà, je suis un peu plus exigeante. J'espère que ces points seront pris en compte dans le décret qui va préciser la loi. Parce que la loi donne des principes généraux et vous avez le Conseil d'État et ensuite le pouvoir exécutif, le gouvernement, qui précise dans son décret. Donc nous, on va avoir les yeux rivés sur ce décret. Deuxièmement, la cinquième période, comme vous l'avez dit, va être encore très ambitieuse pour nous, pour les artisans qui nous accompagnent, pour massifier la rénovation énergétique et pour répondre à nos objectifs européens.
Non,
tout cas, que je sache, c'est en pleine concertation.
D'accord.
À la différence de la quatrième période, il y a une concertation beaucoup plus large avec tous les acteurs.
D'accord.
On en est très contents. Et deuxièmement, cette cinquième période va donner de la visibilité. C'est que maintenant, on va voir, donc, on va définir les objectifs jusqu'en 2025-2028. Ce
D'accord.
qui permet vraiment d'embaucher les artisans, former les personnes, voir quelles sont les opérations qui sont les plus performantes. C'est vraiment un gros gage de visibilité pour les acteurs.
D'accord. Sur les artisans, justement, on l'a pas mal évoqué déjà. Est-ce qu'il y a, au niveau des compétences artisans qui ont parfois été critiquées, il y a le label RGE. Quelle est votre analyse à ce sujet?
Alors, comme je le pense, le frein à la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est pas les financements. Vous avez 8 milliards d'euros sur la table, plus le CITE. C'est pas les acteurs. Nous, on travaille avec 10 000 entreprises d'artisans dans toute la France, donc là, ils sont là. Le problème, c'est la formation et la formation RGE qui n'est pas forcément, je trouve, à la hauteur. Elle permet quand même de donner des gages de garantie, mais je ne sais pas si vous l'avez faite. Moi, je l'ai fait 3 jours dans un bureau à apprendre des choses sur le tableau. C'est pas de terrain. Et nous, on le voit, quand nous, on a une offre de chaudière gratuite biomasse qui requiert quand même une formation Calibois. Les artisans qu'on reçoit, il faut les former. On les forme gratuitement à ce titre parce que RGE ne suffit pas.
D'accord.
Donc je pense que RGE, clairement, pourrait être amélioré et pourrait avoir plus d'éléments de terrain. Et là-dessus, je fais un clin d'œil aux compagnons du devoir qui réfléchissent toujours à augmenter un petit peu la qualité des formations qu'ils offrent et qui se battent pour que le label RGE soit un peu plus qualitatif.
Ah, d'accord. Bah, c'est en tout cas l'un des objectifs du plan de rénovation énergétique des bâtiments, de fiabiliser le RGE notamment. Bon, on verra bien.
On va le dire à la Commission européenne.
Voilà, c'est ça. Oui. Il y a eu effectivement la Commission européenne qui avait retoqué la France sur le fait que l'RGE serait trop contraignant. Voilà. Lisez Bâti Actu pour ceux que ça intéresse. Tout est en ligne. Dernière question. Ce qui me semblait, c'est que les C2E étaient un petit peu un peu cachés pendant des années par les ministères. Ça représentait quand même déjà, ça se chiffre en milliards d'euros. Après, ça a augmenté très rapidement. Mais c'était pas forcément mis sur le devant de la scène. On a plus parlé, par exemple, le CITE. L'an dernier, on en a parlé énormément, alors qu'en fait, les enjeux financiers sont bien moindres. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que là, les pouvoirs publics assument un peu, si je puis dire, les C2E. Je pense y voir un effet gilet jaune, parce que forcément, c'est de la fiscalité un peu indirecte sur, en fait, des gros acteurs. C'est pas la taxe carbone, par exemple, et on sait bien que c'est parti de là. Est-ce que vous partagez plus ou moins cette analyse? Qu'est-ce que vous avez à dire?
Oui, tout à fait. En fait, au cours de la troisième période...
La chaudière à 1 euro, ça a vraiment été lancé de manière très...
Je vais vous donner un petit peu...
On a senti que...
je vais vous
le gouvernement voulait mettre ça en avant.
Ouais, je vais vous donner le sentiment des coulisses. En troisième période, on avait des objectifs qui étaient raisonnables. En plus, le marché n'était pas aussi gros que maintenant. Donc, je suis encore une fois, la France est plutôt bon élève là-dessus, parce que le marché se développe en fonction des objectifs qu'on nous impose. Les acteurs se forment en fur et à mesure. Là, quatrième période, les objectifs d'économie et d'énergie européens nous imposent d'être encore plus ambitieux. Objectif des certificats d'économie d'énergie encore plus ambitieux. Et donc, là, vous n'avez pas 2 milliards d'euros, vous avez 4, 5, 6 milliards d'euros de subventions privées. Parce que je répète, c'est de l'argent privé, donc qui vient des fournisseurs d'énergie et qui ne vient pas de l'État. Et ces deux éléments, des objectifs encore plus ambitieux et le fait que ce soit de l'argent privé, donne aussi un peu une explication de pourquoi c'était un peu un parent caché jusqu'au crédit d'impôt et de transition énergétique. Là maintenant, le gouvernement a un peu souffert de la crise sociale, des gilets jaunes à cause de la taxe carbone. Qu'ailleurs, dans notre colloque, beaucoup de pays ont abandonné la taxe carbone pour les mêmes raisons que la France, il faut quand même le rappeler. Et donc, du coup...
Les mêmes raisons, c'est-à-dire ils ont
Alors, les mêmes raisons, c'est-à-dire que la taxe carbone, l'ADEME d'ailleurs a fait une étude là-dessus, la taxe carbone, c'est l'outil le plus efficace pour réduire les économies, réduire la consommation d'énergie. C'est le plus efficace. Par contre, c'est le moins juste. Ils le disent, c'est-à-dire ça tape au porte-monnaie. Vous avez le crédit d'impôt qui est plus orienté et plus indolore. Vous avez les certificats d'économie énergique qui sont moins efficaces, mais plus diffus. Et vous avez le prêt à taux zéro. Enfin, vous voyez, ils font vraiment une étude qualitative. D'accord. Et la taxe carbone, c'est la plus injuste, la moins équitable, parce qu'elle frappe ceux qui dépendent le plus de l'énergie. Et en général, c'est souvent les gens qui sont dans la précarité, dans la ruralité. Et donc, il y a pas mal d'États qui, dans le colloque, on l'a entendu, qui minimisent la taxe carbone. Et par contre, au Danemark, ils ont abandonné les certificats et ils ont tout misé sur la taxe. Donc, à réfléchir. Et donc, du coup, vous avez bien raison, le gouvernement, après la crise sociale des gilets jaunes et le prix à la pompe à cause de la taxe carbone, a commencé un petit peu à mettre tout ce petit monde en émoi. Et le gouvernement s'est rendu compte que les certificats d'économie d'énergie, 4 milliards d'euros, permettaient peut-être de financer leurs actions de rénovation énergétique. Donc, ils ont sorti un décret le 10 janvier 2019 pour augmenter les primes afférente à un remplacement de la chaudière fuel vers des packs à 1 euro ou des chaudières à gaz ou des chaudières granulées bois, comme nous le faisons. Et donc, à partir de là, c'était un go et tous les acteurs se sont foncés sur cette manne. Et c'est pour ça que vous avez une sorte de pléthore d'offres de chaudières partout où vous passez.
Bien, merci Marina Ophel de Vieux-Cours.
Merci beaucoup.
Un mois d'actu avec Bâti Actu. Trois questions à un industriel.
Place à présent au créneau innovation. Comment un industriel s'adapte-t-il aux transitions énergétiques et numériques en cours? Aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Fayet, directeur commercial et marketing de Téréal, spécialisé dans les matériaux de construction en terre cuite. Bonjour Jean-Baptiste Fayet.
Oui, bonjour.
Alors tout d'abord, une question de conjoncture. Comment se porte l'activité dans le bâtiment actuellement? Donc on peut revenir peut-être un peu sur l'année 2018 et savoir comment se passe donc ce premier trimestre 2019.
Téréal, on est positionné sur deux marchés principaux, comme vous l'avez dit, la tuile et la brique en terre cuite. Donc sur ces deux marchés, la conjoncture se porte plutôt bien en ce moment, et même elle se porte plutôt bien depuis l'été. L'an passé, en 2018, on a eu un démarrage d'année qui a été très mauvais, mauvais jusqu'au mois de mai, et les marchés se sont redressés sur le deuxième semestre, à la fois sur les marchés du neuf et les marchés de la rénovation. Et donc le deuxième semestre l'an dernier a été bon, puisque le marché de la tuile a fini à plus 7%. Sur le deuxième semestre, et on a bouclé l'année 2018 à plus 2%, donc première année de croissance sur ce marché de la tuile depuis 2011.
Ah oui, d'accord.
Donc très bonne nouvelle, et 2019 continue sur cette lancée avec un début d'année qui est également très positif, avec bien sûr une météo qui a été extrêmement clémente. Et donc le marché de la tuile est à plus 5% sur le premier trimestre. Un mois d'avril qui également est très bon. Sur le marché de la brique, la tendance est un peu différente, puisqu'on a un marché qui a fini l'année 2018 en baisse de 3%. Donc c'est un marché qui est un peu plus qui dépend du marché du neuf. C'est un marché qui est en train de s'inverser avec des ventes des constructeurs qui sont plutôt sur une tendance à moins 10 et des permis qui sont également sur la même tendance sur les 6 derniers mois.
Et juste une question sur la tuile, le changement d'ambiance, si je puis dire, au milieu de l'année 2018, on sait pourquoi ?
Ben, c'est à la fois, on avait pris du retard sur le segment du neuf sur les 5 premiers mois de l'année. Donc le retard, les constructeurs l'ont comblé sur la fin d'année. Et ensuite, on a un redémarrage du marché de la rénovation maintenant depuis 6 mois.
Par ailleurs, comment une société donc comme la vôtre opère-t-elle en termes d'innovation pour répondre aux défis des transitions énergétiques et numériques ?
Donc on est engagé sur ces deux défis, à la fois en externe et en interne. En externe, la transition énergétique est au cœur de notre offre. Hein. On est positionné comme un acteur de l'enveloppe du bâtiment et on est positionné comme le leader du solaire résidentiel en France. Donc on a réalisé en 2018 l'acquisition d'une société qui s'appelle GSE Intégration, qui nous positionne comme le leader du solaire en France. Hein. Près de 2 maisons sur 3 qui met du solaire. Mais des produits du groupe Téréal. Et ensuite, on fait aussi évoluer notre offre de façon à proposer des produits qui sont déjà prêts pour la réglementation RE 2020, hein, sur les critères énergie comme sur les critères de carbone. Donc ça, c'est en externe. En interne, on place la maîtrise de nos consommations d'énergie comme un de nos enjeux industriels les plus importants. Hein, donc chacune de nos 16 usines en France a un plan pour réduire ses consommations, pour faire de la cogénération, pour avoir des panneaux photovoltaïques installés sur nos usines. Et on travaille aussi sur nos produits, le poids de nos produits, de façon à réduire l'empreinte carbone de chacun de nos produits dans la gamme.
Et est-ce qu'il y a une mesure que vous attendriez en priorité des pouvoirs publics pour libérer l'innovation ?
Ben, je dirais dans notre secteur, hein, sur l'innovation, ce qu'il faut qu'on ait, c'est un cadre réglementaire qui soit clair, notamment concernant la RT 2020, hein, qu'on sache exactement quels vont être les critères E+, les critères C-, et que les règles soient figées de façon à ce qu'on sache dans quel champ, donc sur quel terrain de jeu il faut qu'on innove pour les 5 années à venir.
Un mois d'actu avec Bâti Actu, histoire d'actu, présenté par Grégoire Noble, chef de rubrique innovation technique et développement durable.
Bonjour Grégoire, aujourd'hui vous allez donc nous parler de Louis Vicat.
Oui, car le nom Vika reste, encore de nos jours, associé au ciment, puisque l'entreprise fondée par son fils Joseph en 1853 existe toujours, qu'elle est active dans une 12aine de pays du monde et qu'elle est toujours détenue par la famille Merceron Vika. Alors, le patriarche, Louis Vika, est né à Nevers en 1786, mais la famille s'installe rapidement en Isère. C'est son oncle par alliance, professeur de mathématiques, qui remarque son intelligence et le présente au préfet Joseph Fourier, un autre mathématicien. Ce dernier l'encourage à passer le concours de la prestigieuse école polytechnique à ses 18 ans, qu'il réussit. En 1806, il intègre ensuite l'école des ponts et chaussées et en sort diplômé 3 ans plus tard comme ingénieur de 2e classe. Louis Vika est affecté dans le Lot, où il doit superviser la construction d'un pont sur la Dordogne à Souillac. Une mission qui va prendre du temps, la France étant exsangue après les campagnes napoléoniennes. Le jeune scientifique cherche alors à concevoir un ouvrage solide, à bas coût, et se penche sur la problématique de la prise de la chaux des piles dans l'eau. À force de travail, il invente la chaux surcuite, à base de calcaire et d'argile, et élabore la théorie de l'hydraulicité des chaux.
Mais s'agit-il d'une découverte ou d'une redécouverte ?
En fait, les Romains, dont les ouvrages ont traversé les millénaires, utilisaient déjà un liant à base de cendres volcaniques pour leurs mortiers, mais le principe avait été perdu. En 1818, donc, Louis Vika présente ses travaux devant l'Académie des sciences, où siège notamment Gay-Lussac, autre savant de renom. Systématiquement, il analyse la chimie des roches susceptibles de donner par cuisson un bon ciment, ce qui reste la base de la construction moderne.
Son invention a dû faire sa fortune ?
En fait, non. Le scientifique, préférant la gloire d'être utile à celle d'être riche, choisit délibérément de ne pas déposer de brevet. Ce que ne manque pas de faire un Écossais en 1824. C'est la raison pour laquelle on parle encore de ciment Portland, du nom de la pierre calcaire de Portland, un nom choisi uniquement pour évoquer la qualité du parement et non sa composition minérale. En 1833, un autre polytechnicien, Léon Pavin de Lafarge, installe des fours à chaux en Ardèche. Imperturbable, Louis Vika poursuit ses travaux de recherche. Dès 1839, Balzac s'en émeut. Quelle sera la récompense de Vika, celui d'entre nous qui a fait le seul progrès réel de la science pratique des constructions ? L'ingénieur est donc reconnu de son vivant par François Arago, qui décide de lui faire attribuer une rente viagère de 6 000 francs or. En 1846, il remporte le prix du marquis d'Argenteuil, qui récompense l'auteur de la découverte la plus importante pour l'industrie nationale, richement dotée de 12 000 francs or. et c'est son fils qui se lance dans la production industrielle de l'invention paternelle. Ensemble, ils construisent le pont du Jardin des Plantes en 1855 à Grenoble, l'un des premiers ouvrages au monde en béton coulé qui est encore visible. Et les techniciens d'aujourd'hui utilisent toujours l'aiguille Vica pour mesurer la résistance du matériau et son durcissement dans le temps. Résumer la vie de Vica, c'est chaud.
Un mois d'actu avec Bâti Actu, une émission animée par Florent Lacasse, rédacteur en chef.